Les voies de service, mercredi 23 janvier 2019. Bonjour tout le monde. J'ai essayé d'appeler malade ce matin, mais malheureusement, j'étais la seule qui avait une voix. Alors, je suis là. Non, c'est ça. Le virus a vraiment frappé toute l'équipe du mercredi des voies de service, mais heureusement, Jean-Sébastien, quand l'arrêt du métro l'aura libéré, se joindra à moi avec des textes sur des sujets musicaux. Et de mon côté, ben, je vais faire le tour de toutes sortes de sujets. En première partie, je vais vous parler de projets, en fait, des atlas sur les nations, les Premières Nations du Canada. Là, je suis en train d'essayer d'accéder aux bons documents. C'est tellement ridicule. Alors voilà, l'Atlas des Premières Nations, donc ça va vraiment nous aider à situer les enjeux à travers le Canada. Et puis, je vais aussi, moi aussi, de mon côté, empiéter sur les plates-bandes de Daniel pour vous parler de Gord Downie et de son héritage sur les Premières Nations. Et je commence tout de suite avec ces atlas autochtones. Donc, des atlas autochtones dans toutes les écoles de la province. Et ici, on parle de l'Alberta, puisque c'est un texte que j'ai pris sur le site ICI Radio-Canada, ICI Alberta. Et ça a été publié le vendredi 18 janvier. C'est signé Marie-Pierre Mercier. Alors, le gouvernement fournira à toutes les écoles de l'Alberta un exemplaire de l'Atlas géographique canadien des peuples autochtones et métis du pays. C'est une initiative qui s'inscrit dans la réforme scolaire du gouvernement provincial de l'Alberta. Alors, les 16 000 écoles auront droit à un seul exemplaire de l'Atlas, mais une copie sera disponible en ligne pour en faciliter l'accès à tous et on aura aussi accès à une version française du même Atlas. Nous sommes en train de construire de tout nouveaux programmes scolaires. Nous avons besoin de contenu pour y arriver. Et ça, c'est le ministre de l'Éducation de l'Alberta, David Hagan, qui le dit. C'est une réforme qui veut dépoussiérer un curriculum vieux de 30 ans en faisant une place à de grands oubliés des manuels scolaires, notamment les Autochtones et les francophones. L'Atlas contient de l'information sur les communautés, sur les langues, les traités et les terres autochtones. Selon Marlène Poitras, qui est chef régionale de l'Assemblée des Premières Nations, ça va permettre aux non-Autochtones de mieux comprendre notre histoire et pourquoi nous nous portons à la défense des traités, par exemple. Pour Ben Anderson, qui lui est enseignant à l'école Bencalf Robe à Edmonton, il s'agit d'une excellente initiative. Il a toujours de son côté trouvé difficile d'enseigner les perspectives autochtones. Il dit qu'il doit passer beaucoup de temps sur Internet pour trouver des ressources utiles pour l'enseignement des points de vue autochtones et malheureusement, ces ressources ne sont pas nécessairement fiables. Alors l'Atlas va être vital pour les enseignants autochtones et non-autochtones. David Hagan espère que ce livre sera le premier d'une longue collection dans les écoles. Ce genre d'initiative est important pour la réconciliation, selon lui. Selon Marlène Poitras, apprendre l'histoire des peuples autochtones dès le primaire permet de grandir avec une meilleure compréhension des différentes cultures. Ça crée des meilleures relations et une meilleure société en général, selon elle. Depuis janvier, des écoliers de la maternelle à la quatrième année sont appelés à tester les nouveaux programmes. Alors, je pense que le métro est encore en panne. J'ai malheureusement expérimenté ça moi-même ce matin. En plus des retards des autobus à cause de la neige. Et alors, on va écouter un peu de musique tout à l'heure, plus tard dans l'émission. Je vais vous parler de Gordon Downie, ce chanteur Tragically Hip, qui est tragiquement décédé cette année, ben, enfin l'année dernière. Alors, on va mettre un peu de musique et puis on espère qu'on se croise les doigts, que notre collaborateur va arriver bientôt. Are We Family, The Tragically Hip? Et ça m'amène à vous parler donc de cet article. L'étude des pensionnats autochtones grâce à l'œuvre de Gord Downie. Donc, c'est un article que j'ai pris sur Ici, Nord de l'Ontario. Un article publié samedi le 19 janvier. Et bon, on nous apprend que les enseignants ontariens ont maintenant accès à du matériel pédagogique pour enseigner l'histoire des pensionnats autochtones. La nation Anishinaabe Aski a procédé samedi au lancement de la ressource Secret Path, du nom de l'œuvre du défunt chanteur Gord Downie. La cérémonie s'est déroulée à l'Université Trent à Peterborough, plus précisément au Wenjack Theatre, justement nommé en l'honneur de Cheney Wenjack, ce jeune autochtone mort à 12 ans après s'être enfui en 1966 d'un pensionnat autochtone près de Kenora, dans le nord-ouest de l'Ontario. L'histoire avait été rendue célèbre grâce à un album, un roman et un film d'animation lancé par Gord Downie en 2016, et ça avait été le dernier projet du chanteur qui est décédé l'année suivante. Et j'ai dit l'année dernière, mais ça fait déjà un an en fait, c'est en 2017, ça passe tellement vite, alors qu'il était décédé d'un cancer. Le lancement s'est déroulé en la présence d'éducateurs et de membres des familles Wenjack et Downie qui ont appuyé le développement de la ressource. Selon Derek Fox, qui est député grand-chef de la nation Anishinaabe Aski, les élèves de toute ethnicité pourront apprendre à propos de la vraie histoire du Canada, pas seulement les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses, comme l'héritage des pensionnats autochtones. La sœur de Cheney Wenjack, Pearl, estime que le matériel va contribuer à la réconciliation avec les peuples autochtones. « Nous voulons unir tout le monde avec ce curriculum dans les écoles. » Les documents comprennent des plans de cours adaptés à l'âge et au niveau d'études des étudiants et portant sur l'histoire des Premières Nations et l'impact des Premières Nations, des pensionnats autochtones. La nation Anishinaabe Aski représente 49 communautés autochtones dans le nord de l'Ontario et près de 50 000 personnes. Et en terminant, si jamais vous voulez faire des recherches sur les albums, dont toute l'œuvre de Gord Downie, le nom de ce jeune autochtone, Cheney Wenjack, ça s'écrit C-H-A-N-I-E, W-E-N-J-A-C-K. Donc, Cheney Wenjack. Alors, vous pouvez faire des recherches et trouver facilement les documents dont j'ai fait mention dans ce texte. Alors, c'est maintenant qu'on accueille Jean-Sébastien. Hey, merci beaucoup à Mathieu Tessier hein, qui a remplacé Jean-Sébastien qui était retardé par des...
Par les aléas montréalais, disons
oui, voilà,
ça
exactement.
Ici.
C'est
par
pas
la météo,
c'est
par
pas
la
première ni la dernière qu'on expérimente ça. Alors,
C'est quand même un 3 en 3 pour moi cette semaine. Ce n'est pas ma semaine, mais
ouais,
bon.
Non, on n'a pas été chanceux cette semaine. Et, ouais, c'est ça. Il faut profiter de la belle neige avant que ça fonde puis qu'il y ait une couche de pluie verglaçante là, qu'on nous annonce ce soir.
Oui.
Par-dessus, ça va être joyeux. Alors, vous allez nous parler aujourd'hui, ce matin, d'Ingrid Saint-Pierre.
Oui, la renaissance d'Ingrid Saint-Pierre. C'est un texte de José Lapointe qui est paru dans la presse le 21 janvier. La chanteuse Ingrid Saint-Pierre lancera vendredi son quatrième album. Œuvre intime et dépouillée, Petite Plage arrive comme une renaissance après un passage à vide d'un an. Quelqu'un qui écoute ça ne sait pas à quel point il me connaît, dit Ingrid Saint-Pierre en avouant qu'elle a conçu un album égoïste. Chaque tune a été faite pour moi, parce que j'en avais besoin, ou à cause d'une rencontre. Les histoires derrière sont plus grandes que les chansons. Le résultat est impudique et à fleur de peau, pourtant on se retrouve dans les histoires sensibles d'Ingrid Saint-Pierre, qu'elle nous parle de son bébé qui ne dort pas, avec la pièce « Les éléphants m'assaillent », du noyau familial, tout ça c'est nous, du deuil de sa grand-mère, l'enneigée, mais aussi de la vieillesse, les joailliers, ou d'une histoire d'amour hors norme, les amoureux scaphandres. La chanteuse décrit avec délicatesse des sentiments et des émotions qui peuvent toucher tout le monde. La première chanson, « À la mer », raconte aussi le gouffre dans lequel elle s'est enfoncée il y a 2 ans. « J'ai voulu tous les rôles et puis tous les chapeaux, mais plus rien ne m'auréole quand ma tête est sous l'eau », y chante-t-elle. En entrevue, Ingrid Saint-Pierre en parle ouvertement. Elle a terminé sa précédente tournée « Sur les genoux » en burn-out. Elle dit « Mon fils ne dormait pas. J'ai passé 2 ans à ne pas dormir plus de 2 heures d'affilée par nuit. J'aurais J'ai fait ma tournée pareil, je l'emmenais partout avec moi.
Oh mon Dieu, on peut tellement compatir, hein, Jean-Sébastien?
Oui, et sans grande surprise, elle dit « J'ai frappé un mur, je ne me plains pas. Il y a plein de mamans qui pratiquent toutes sortes de métiers qui vivent la même chose. » C'est vrai que c'est une réalité, hein, les jeunes enfants, le sommeil et
oui,
tout ça.
Oui, ça a toujours un impact sur notre sommeil, ça c'est clair.
Conjuguer la vie. Mais c'est comme si j'avais voulu prouver qu'avoir une famille n'allait rien changer, que tout pouvait continuer comme avant. Ce qu'elle comprit ensuite, c'est que son désir de remplir tous ses rôles comme si de rien n'était exerçait une pression inutile qu'elle s'était mise toute seule sur les épaules.
C'est souvent le cas.
Personne ne me demandait ça, mais à un moment donné, à force de vouloir être parfaite partout, tu te casses la gueule. Petite Plage est donc le témoin de cette année de grande remise en question pendant laquelle l'auteur, compositrice, interprète a pensé tout lâcher. De tout ce sombre, je ne suis jamais allé aussi profond. A pourtant émergé de la lumière. C'est le disque le plus lumineux que j'ai fait. J'avais envie d'être vrai et libre.
Wow.
Enregistré dans le studio Wild à Saint-Zénon avec le réalisateur Philippe Brault, elle dit « Je ne pourrai plus jamais faire d'album ailleurs. Ces 9 nouvelles chansons sentent la forêt et l'eau du lac. On y retrouve une Ingrid Saint-Pierre qu'on ne connaissait pas, avec des touches d'électro, des effets dans la voix, des distorsions, et même une surprenante collaboration avec le duo Heart Street sur la très ludique Sac Banane. »
Sac Banane, j'ai entendu ça.
Je n'avais jamais fait ça, mais quand tu as peur de déplaire ou de déstabiliser, tu ne vas pas où tu devrais aller. J'écoute beaucoup de Sufjan Stevens, de Bon Iver, et ça s'entend. C'est plus en phase avec qui je suis, et tant mieux si ça fit dans l'univers. L'auteur, compositrice, interprète n'a jamais cherché à être cool. C'est quoi être cool? Ni à connaître son, entre guillemets, public cible. Elle chante, si elle chante, c'est pour les rencontres qui en découlent, pour les bouts de vie que les gens lui racontent. C'est un beau métier que je fais. Le lien que tu crées avec les gens, il y a quelque chose qui se passe grâce à la musique. Ils me disent des choses que jamais ils n'auraient dites dans un bureau de psy. Des fois, le lien est plus fort et c'est déstabilisant. Plus heureuse que jamais, la chanteuse de 33 ans entreprendra sa nouvelle tournée dans un état d'esprit zen et serein. Elle dit « Ce ne sera sûrement pas aussi intense que la précédente », affirmant que la petite Ingrid douce qui ne voulait pas déplaire est maintenant capable de dire non. Des choix familiaux ont été faits et la tournée sera aménagée pour que tout le monde y trouve son compte. Elle dit « Mon chum », on précise que c'est le batteur du groupe Random Recipe, et il se nomme Liu Kongha, et il est aussi le nouveau directeur musical de Marimé. Il ne part plus en tournée avec moi, ce sera plus simple pour Polo, je présume que Polo est le nom de son enfant. Ça sera plus simple pour Polo avec deux horaires différents, mais j'ai juste hâte de partir et je veux emmener cet esprit dans le spectacle qui est de seulement faire du bien au monde et de passer un beau moment. Si elle reste surprise d'en être à son 4e album en 8 ans, elle dit « Jamais de ma vie je n'aurais pensé en sortir juste un ». Elle voit d'un bon œil l'idée de vieillir dans le milieu de la musique. Non seulement elle sait maintenant qu'on peut être maman et chanteuse tout en étant imparfaite mais heureuse, mais elle assume complètement son âge. Elle termine en disant « Je regarde des femmes accomplies comme Ariane Moffat, Catherine Major, Marie-Pierre Arthur, qui sont des mères, des artistes, des femmes d'affaires. Elles m'inspirent beaucoup et elles sont belles à voir aller. Je suis fière d'être une maman, d'être une auteure, compositrice, interprète, de revenir avec un album. Je suis fière de ça et je me donne le droit de le dire. » L'album s'intitule « Petite Plage ». C'est sur l'étiquette Simon Records. Ça sort ce vendredi. Et on va écouter le premier extrait de cet album qu'on a nommé en tout début d'article qui parle du deuil de sa grand-maman. Ça s'intitule « L'enneigé ». Thank you.
tu t'en vas. Ouvre les bras dans la mousse d'un ciel sans nom.
Alors, je rappelle que c'était Ingrid Saint-Pierre, premier extrait de son album qui paraît ce vendredi, la pièce Enneigée.
Et je vais changer de sujet complètement et vous parler d'un joueur de hockey autochtone et francophone. Donc, autochtone, francophone et fier hockeyeur dans la Ligue de l'Ontario. C'est un article, en fait, c'est tiré d'un reportage, d'une chronique à l'émission Le Matin du Nord. Et donc, c'est... Ben, j'ai décidé de vous en parler parce que j'aime ça parler de sport et ça entrait dans mes tales. Fier représentant de la communauté autochtone et seul francophone des Wolves de Sudbury, le hockeyeur Ryan Obunsawin reconnaît son rôle de modèle dans la communauté et ce n'est pas lui qui va s'en plaindre. Lui-même l'admet comme il n'est pas le plus talentueux. Le défenseur de 19 ans a dû travailler fort pour tailler sa place dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Même après plus d'une vingtaine de parties avec les Wolves, il ne tient rien pour acquis. S'il a un message pour les jeunes athlètes qui rêvent de poursuivre une carrière de hockeyeur, c'est de ne jamais abandonner, même si, comme lui, ils songent un jour à tout abandonner. J'ai continué et je suis rendu ici. Ça prend juste du travail. Plein de monde veut jouer ici. C'est une des meilleures ligues au monde pour atteindre la LNH. Il y a toujours quelqu'un qui veut prendre ton spot. L'an dernier, le hockeyeur d'Azilda n'a disputé que 8 parties dans la OHL. Cette année, il a de nouveau commencé la saison avec les Canadiens de Rayside Balfour de la NOJHL, donc North Ontario Junior Hockey League, j'imagine, avant de confirmer sa place chez les Wolves. Tout n'est pas rose pour autant pour le jeune homme de 19 ans. À l'automne, Ryan Obunsawin a vécu une grande peine d'amour. Sa copine de longue date, la hockeyeuse Melissa Kingsley, est décédée après une longue lutte contre le cancer. Pour lui rendre hommage, il a troqué son 16 pour le numéro 23 qu'elle portait fièrement avec les Lady Wolves de Sudbury et les GGs d'Ottawa, et ça lui a porté chance. Depuis, j'ai compté des buts parce que quand elle jouait, c'était une goal scorer. Donc là, c'est elle qui compte les buts pour moi. Oui, je sens encore sa présence. Chaque jour, je joue pour elle. Ryan Obunsawin est abénaki. Il admet ne pas toujours pratiquer les coutumes autochtones, mais il tient à s'impliquer, par exemple, lors de l'élection d'un chef. Il suit aussi de près la situation des conseils de bande en Colombie-Britannique. Le défenseur des Wolves tire une grande fierté d'être un des rares membres d'une Première Nation à évoluer dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Quand t'as la chance de représenter ton héritage, c'est toujours le fun. Je suis fière d'être autochtone. Le hockeyeur de Sudbury compte jusqu'à maintenant 3 buts et une passe dans la OHL cette saison.
Isabelle, si...
Oui, Jean-Sébastien.
Si je te parle de Ozzy Osbourne, quelle est la première chose qui te vient en tête?
Mon Dieu, Seigneur, je sais pas, ses cheveux? sa blonde?
C'est sûr qu'on l'a associé beaucoup à la télé-réalité. Ozzy Osbourne sort une peluche à l'effigie d'une chauve-souris. C'est peut-être une vieille légende urbaine qu'on a pu déjà entendre. Le chanteur de feu Black Sabbath commémore à sa manière l'incident du 20 janvier 1982. Donc, on a fêté l'anniversaire il y a quelques jours, durant lequel il croqua la tête du petit mammifère volant. Ça n'était pas une légende urbaine, c'est vraiment arrivé.
J'avais oublié ça.
On vous laisse le soin, j'ai trouvé ça dans rollingstone.fr, on vous laisse le soin de juger du bon goût de la démarche. Ozzy Osbourne, chanteur du mythique Black Sabbath, désormais à la retraite, s'apprête à commercialiser une peluche en forme de chauve-souris avec la tête détachable.
Oh non!
En référence à un des incidents les plus célèbres de l'histoire du rock, lorsque le chanteur mordit la tête d'un animal assommé, pensant qu'il s'agissait d'une réplique de plastique.
Oh non!
On rappelle l'événement.
Pauvre lui quand même, c'était pas voulu.
C'était dans l'Iowa, en plein pendant la tournée, un spectateur lui jette un spécimen. Apparemment qu'il y avait déjà des légendes comme quoi qu'il faisait des choses bizarres et oreille sensible s'astenir quand il l'a croqué. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. J'ai senti un liquide chaud épais remplir ma bouche avec le goût le pire que vous pourriez imaginer. Et chose qui est surprenante, la peluche d'une trentaine de centimètres, $40 est déjà sold out.
Wow! Eh bien, on vous revient avec d'autres sujets après la pause. Voix de service, deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, je vais vous parler d'une femme d'affaires Innu qui vraiment s'attaque à un marché de luxe. Et puis, il est minuit moins une pour les langues autochtones. On va s'en parler également. De votre côté, Jean-Sébastien?
Bien, d'abord, on va aller à Cuba parler un petit peu de salsa. Et puis ensuite, on parle de streaming avec un titre qui va vous donner peut-être un aperçu. Plus c'est long, moins c'est bon. Le streaming influence la durée des chansons.
Plus c'est long, moins c'est bon. C'est vrai que ça nous amène des images. En tout cas.
on parle de streaming.
Oui,
toujours,
oui, je sais qu'on parle de streaming. Alors, ben moi, je vais vous parler de quoi j'ai dit que j'allais vous parler. Oui, non, c'est pas ça du tout. Non, ça, j'en ai parlé. Langues autochtones, il est minuit moins une. C'est un article qui a été publié dans la presse. En fait, c'est un éditorial d'Alexandre Sirois, donc qui est paru le 13 janvier. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais dans le cas des langues autochtones, il est minuit moins une. Le gouvernement fédéral s'apprête à déposer un projet de loi pour assurer leur protection alors qu'elles font face à la disparition. Les quelques 70 langues autochtones recensées au Canada, une dizaine au Québec, sont en danger. Elles pourraient s'éteindre si on n'intervient pas rapidement pour les protéger. On en a souvent parlé à l'émission. Et c'est d'ailleurs cette année, petite parenthèse, l'année internationale des langues autochtones. Alors, c'est pas seulement au Canada qu'on s'en préoccupe. Et c'est pourquoi l'initiative du gouvernement fédéral est de la plus haute importance. La législation annoncée en décembre 2016 par Justin Trudeau devrait être dévoilée sous peu et adoptée au cours de l'année. Elle ne doit pas être simplement symbolique, ce serait un double affront. Car lorsqu'on adoptera cette loi, le Canada ne reconnaîtra pas seulement la menace qui pèse sur les langues autochtones, mais aussi sa responsabilité dans cette situation dramatique. Les efforts concertés visant à assimiler les Autochtones, le dénigrement et le rejet de leur langue et de leur culture à un point tel que certains en avaient honte, ce système perfide qui a broyé l'identité des Autochtones, notamment par l'entremise des pensionnats, c'est Ottawa qui en a été la cheville ouvrière. Aujourd'hui, seulement 15,6% de la population autochtone au Canada dit pouvoir soutenir une conversation dans une langue autochtone, selon les plus récentes données de Statistique Canada. Donc, ça fait environ 260 000 personnes au pays. Il y a 10 ans, il y en avait 21,4%. Le moment est donc venu de trouver des façons de stopper l'hémorragie, de proposer des moyens de garantir la transmission des langues autochtones aux prochaines générations. Quiconque est préoccupé par la précarité du français au pays sera forcément consterné par celle des langues autochtones et comprendra l'urgence de la situation. Au sein des communautés, la prise de conscience de cette catastrophe annoncée ne date pas d'hier. Des programmes ont été développés ces dernières années pour préserver les langues autochtones en favorisant leur apprentissage. Certaines ont déployé d'ores et déjà des efforts considérables en la matière. Mais les initiatives en cours ne sont visiblement pas suffisantes. Et il suffit de discuter avec des acteurs du milieu pour comprendre que souvent, sans financement récurrent, elles sont tenues à bout de bras. Si le gouvernement fédéral est persuadé qu'il est de son devoir de changer la donne, ce qui est effectivement le cas, les initiatives doivent être généralisées et soutenues adéquatement. Ottawa, je cite ici un rapport de la Commission de vérité et réconciliation de 2015, donc, a la responsabilité de fournir des fonds suffisants pour la revitalisation et la préservation des langues autochtones. Et donc, l'heure est venue d'en prendre acte. Précisons ici qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de gros sous. Le défi est plus complexe. Il y a de multiples façons de le relever. Par exemple, lors des séances de mobilisation avec les communautés autochtones devant servir de prélude à ce projet de loi, l'importance de la prestation de services gouvernementaux en langue autochtone a été évoquée. Et il faudra d'abord, selon les experts, évaluer les besoins de chaque communauté sur le plan linguistique, en n'oubliant pas que ce sont les Autochtones qui devront être les véritables maîtres d'œuvre de ces efforts de protection et de revitalisation. Mais Ottawa doit, dès après l'adoption du projet de loi, leur donner les moyens et la possibilité de faire valoir leurs droits linguistiques. Et vous allez nous parler de Cuba, vous mettre un peu de chaleur dans le cœur.
Oui, on s'éloigne de notre hiver. À Cuba, les tubes de Michael Jackson en version salsa, c'est l'AFP qui ramène ça, publié le 21 janvier. La basse introductive annonce la chanson Billie Jean de Michael Jackson. Mais le son d'un güiro change le rythme, puis les tambours et les trombones annoncent l'arrivée de la salsa. En un instant, le public chavire. Le responsable de cette reprise qui a transporté le public du Théâtre national de la Havane à l'occasion du 34e festival de jazz qui s'achevait lundi dernier dans la capitale cubaine s'appelle Tony Sukar. Le musicien a convaincu les majors Sony Music et Universal Music Group qu'il pouvait conserver l'essence des succès planétaires du roi de la pop en les reprenant en version latino dans un album intitulé Unity. Unity est un album hommage à Michael Jackson, on rappelle qu'il nous a quittés en 2009, que j'ai commencé une année après la mort du chanteur, mais je n'avais pas eu de contact avec l'industrie musicale, je n'étais qu'un étudiant, raconte Tony Sukar, 32 ans, né au Pérou, mais installé à Miami depuis l'enfance. Les choix du trentenaire sont audacieux. Smooth Criminal, de l'album Bad, en 1987, I Want You Back, des Jackson 5, en 1970, sont des salsas purs et durs, mais Earth Song, de l'album History, 1995, est repris dans des rythmes du lando, un style musical afro-péruvien. Les titres ont été enregistrés en 2015. Il a ensuite fallu obtenir les droits. Ils ont tout refusé, mais à la fin, je suis allé moi-même au bureau de John Branca et je lui ai laissé une lettre avec le disque. Je lui disais « Je voudrais que vous l'écoutiez avant de me refuser mes droits ». Raconte le musicien à propos d'un des exécuteurs testamentaires du chanteur américain. Au bout de 3 semaines, il m'a dit « Tony, j'ai adoré, tu mérites d'avoir les droits », poursuit-il. De parents péruviens et musiciens, Tony Sukal a commencé à jouer du piano, puis il s'est consacré aux percussions. Diplômé en art de l'Université internationale de Floride, il a été nommé au Grammy Awards Latino en 2018 pour un autre de ses projets. L'album Unity compte avec la présence de stars de la salsa comme les Portoricains Tito Nieves et La India ou encore le chanteur américain et à Cuba John Secada. 3 coups de baguette, puis aussitôt la cymbale. C'est l'heure de Smooth Criminal avec une décharge de timbales de Tony qui semble s'extasier à chaque note. Le public danse entre les sièges du théâtre.
Ça m'intrigue vraiment d'entendre Smooth Criminal en version salsa, sérieusement.
Lors de la dernière répétition mercredi, il manquait un guitariste pour exécuter l'introduction de I Want You Back. Un musicien cubain d'une 60aine d'années a été appelé, il ne connaissait pas la chanson. Après l'avoir écouté sur un téléphone portable, il a pris son instrument, a cherché la note quelques secondes et s'est dit prêt à jouer. Magie d'une île de musiciens virtuoses. Oui. Tony veut désormais défendre la salsa face à la déferlante de rythme cubain. Il a commencé un nouveau projet avec des musiciens cubains. Je suis là pour défendre la musique que j'aime, confie-t-il. Et on n'écoutera pas Smooth Criminal, on va plutôt découvrir la version salsa de Billie Jean.
J'ai très hâte.
Billie Jean, repris ici par Tony Sukkar et son orchestre. Tony Sukkar, si vous êtes intéressé, T-O-N-Y, Sukkar, S-U-C-C-A-R, l'album Unity, et hommage à Michael Jackson.
Et je viens d'ajouter cette chanson-là dans ma liste pour danser la salsa, justement, ça se danse très bien. Je l'ai essayé tout à l'heure pendant qu'on écoutait. Alors, de ce beau coin du sud, plein de soleil, je vous ramène dans le nord et la neige pour vous parler de bottes. Une Inou à la conquête du monde, c'est un article qui a été publié le samedi 12 janvier sur le site Espace Autochtone. C'est signé Luc André. Prendre des risques, ne pas craindre l'inconnu et rêver grand, telles sont les caractéristiques d'une femme d'affaires Inou du nom de Josée Leblanc. En 2014, Josée Leblanc, une Inou d'Ouachat, à cette île, s'est lancée dans le commerce d'artisanat autochtone. Elle a fait l'acquisition d'un inventaire d'artisanat d'une autre Inou, dont le commerce connaissait une situation difficile. Une femme courageuse et travaillante qui n'avait aucune expérience dans la vente et dans la fabrication de l'artisanat. Premier constat, elle s'aperçoit que les artisanes gagnaient 3 $ de l'heure pour leur production, d'où un questionnement : comment augmenter les revenus de ces femmes artisanes? La base de sa démarche qui allait suivre reposait sur la valorisation du travail des femmes et l'obligation d'assurer la pérennité de ce savoir-faire singulier sur la scène mondiale. Après quelques années, le revenu des femmes est passé en moyenne à 15 $ de l'heure, soit 5 fois ce qu'elles gagnaient lorsque Josée Leblanc avait racheté l'inventaire. C'est quand même pas rien, hein? Et un des éléments qui explique la croissance de l'entreprise est le succès des bottes de l'espoir Atticus, A-T-I-K-U-S-S. Je vous épelle le nom, mais vous allez peut-être pas vous précipiter pour en acheter une paire parce que vous allez voir plus loin que c'est pas donné. Mais c'est qu'on paye pour ce qu'on a.
D'accord.
Alors, chaque paire de bottes contient un message dirigé à l'acheteur de la part de l'artisane qui a confectionné le produit. La note explique que les bottes ont été fabriquées afin de rendre hommage aux ancêtres en utilisant des méthodes ancestrales de tannage, de pelage et de tissage, et qu'une partie des revenus reviendrait aux artisanes et aux communautés. De plus, Josée Leblanc a procédé à l'ouverture d'un hôtel-boutique conçu avec l'artiste Inou Ernest Dominique. Une des missions de l'hôtel Agara consiste à offrir une résidence pour les artistes Inou qui ont besoin d'un lieu pour créer. Avec ses 10 chambres, elle permet aussi aux clients de voir les artistes à l'œuvre. Avec les bottes de l'espoir, Josée Leblanc se tourne vers le marché international. Cette ancienne participante des Dragons à Radio-Canada, j'étais pas au courant, mais il faut dire que je regarde pas la télé, cible le Carnaval de Québec comme tremplin. Elle a persuadé les organisateurs que les duchesses devaient porter les bottes Atticus afin de profiter de la visibilité du carnaval pour faire rayonner ce produit. À partir de cette expérience, les commandes augmentent à travers son site Internet. Josée Leblanc doit engager du nouveau personnel pour faire face à la demande. Elle a maintenant 7 employés à son magasin à Sept-Îles, de même que des travailleuses dans des centres d'amitié autochtones au Québec et à la maison chez Doris à Montréal, qui est un refuge pour les femmes en difficulté. L'été dernier, elle a ouvert une nouvelle boutique-atelier sur la rue Saint-Louis à Québec. Maintenant, elle vise les marchés des pays nordiques, de la Russie et de la Chine. Comme les bottes sont vendues à plus de 1000 $, je vous disais tout à l'heure que vous n'allez peut-être pas réussir à rentrer ça dans votre budget, Josée Leblanc cible le marché des amateurs de produits de luxe, une stratégie qui semble fonctionner jusqu'à maintenant. Elle vient d'obtenir un prêt sans intérêt de 174 000 $ de Développement économique Canada pour améliorer son marketing et son commerce en ligne sur son site. Son principal objectif demeure faire travailler le plus d'artisans possible. Alors, Jean-Sébastien, vous allez nous parler de comment la longueur peut influencer la qualité?
D'une certaine façon, ou comment le mode de consommation peut influencer la longueur.
La longueur, OK, oui, c'est plutôt l'inverse, c'est ça.
Et ça s'intitule « Plus c'est long, moins c'est bon ». Le streaming influence la durée des chansons, publiée par le journaliste Pierre Crochard sur le site clubic.com. Plus court, plus rapide, plus répétitif, l'analyse des données du top 100 du Billboard par un scientifique nous en dit de plus en plus sur la façon par laquelle le streaming influence la production musicale. Mm. Gucci Gang, le titre ayant révélé le rappeur Lil Pump en 2017, que je ne connais pas.
J'avoue que ça a échappé à ma culture, moi aussi.
et avec ses 2 minutes et 4 secondes, le titre le plus court à s'être positionné dans le top 10 Billboard depuis 1975. Est-ce un cas isolé? Plutôt une tendance qui se dessine clairement, selon Michael Tauberg, un data scientist qui a livré ses analyses au site Quartz. Une chute progressive de la durée des titres musicaux depuis 20 ans, c'est ce qu'on en tire selon l'analyse. Les titres à se frayer une place dans le classement du Billboard ont tendance à être plus courts depuis une vingtaine d'années. Mais la machine s'est accélérée quelque peu depuis 2015, quand le nombre de chansons de 2 minutes 30 est passé de 1% à 6% dans le top 100. Quelle conclusion en tirer? Les artistes seraient-ils devenus paresseux avec les années? En réalité, ils ont plutôt adopté la façon dont la musique est dorénavant consommée, c'est-à-dire en streaming. Ce mode d'écoute du 21e siècle représente désormais 75% des revenus de l'industrie. Daniel Lachance nous parlait justement que le streaming avait totalement surplanté les ventes de CD, quoique bon, c'est une idée qui fait de plus en plus son chemin depuis les années. C'est maintenant chose faite et force ainsi les artistes à devoir s'y conformer pour gagner leur croûte. Lorsqu'on sait que les compagnies, Spotify, Apple Music et tous les autres, dédommagent les artistes entre 0,03 et 0,0007 sous par morceau joué.
Ça fait beaucoup de zéros avant chiffre.
C'est des fractions de scènes noires qui sont, on le rappelle, une devise qui n'est plus disponible sous forme, sous forme liquide ici.
Ouais.
Lorsqu'on sait que l'argent qu'il leur est remis, et quelle que soit leur durée, on comprend un peu mieux les propos du journaliste Mark Richardson. Il explique qu'il n'y a jamais eu une telle incitation à faire des morceaux courts. Bourrer un album de chansons toujours plus brèves et simplement plus rémunérateur que d'enregistrer une poignée de chansons longues. Les artistes empochent le même montant pour une simple chanson de 2 minutes qu'ils le feraient avec une pièce de 10 minutes. Ça demande aussi plus de travail, une chanson longue en composition, en arrangement, mixage et tout. En exemple, sur son album Views, paru en 2016, le chanteur Drake proposait des chansons 11% plus longues que sur Scorpion, paru en 2018. Aussi, partant du simple constat que plus une chanson est streamée, plus elle rapporte de l'argent, la réduction de la durée des morceaux de musique et leur caractère plus répétitif. On revient au rappeur Lil Pump et sa chanson Gucci Gang. Il répète le terme Gucci Gang à 53 reprises en 2 minutes de chanson. Ça incite alors les utilisateurs à les réécouter encore et encore. Pour Quartz, la tendance est également à mettre sur le compte de notre ère numérique où la satisfaction immédiate est reine. La capacité d'attention de l'être humain a tendance à décroître et peut expliquer notre attirance vers des choses simples, répétitives et courtes. En la matière, tous les genres musicaux ne sont pas égaux. Michael Tauberg a ainsi dressé la courbe de la durée moyenne des titres de R&B, de rock, de rap, de pop et de country. Comme on peut le constater sur les graphiques dans l'article, il y a plein de graphiques, de diagrammes à lignes brisées, comme on dit. Les morceaux pop ont une durée relativement stable depuis la fin de la première décennie des années 2000, mais la durée des morceaux de rap est en chute libre depuis 2015. Pour Jeff Ponchik, le fondateur de Repost Network, qui distribue les morceaux des artistes sur différentes plateformes de streaming, l'attrait des rappeurs pour les formats courts viendrait de l'essence même du beatmaking qui s'apparenterait à une production à la chaîne où les rappeurs créent rapidement et passent à autre chose de façon quasi instantanée. Pour d'autres, comme la rappeuse Tierra Whack, la brièveté des titres est perçue comme un défi en soi, un concept musical qui lui permet notamment de jouer habilement de tous les médias à sa disposition.
Eh bien.
Thank you.
Et je termine avec une petite brève. Ariane Moffat et Chloé Robichaud célèbrent les femmes de Coudjouac. Le temps du clip de la chanson « Pour toi », la pièce qu'on vient d'entendre d'Ariane Moffat, la cinéaste Chloé Robichaud, qu'on a connue notamment pour « Sarah préfère la course », a plongé dans l'univers musical afin de mettre en image le texte du nouvel extrait de l'album « Petite main précieuse ». Elle et l'artiste sont allés à la rencontre de femmes vivant à Coudjouac, un village du Nunavik. Pour Ariane Moffat, c'est grâce à cette expérience enrichissante que sa pièce a pu avoir un véritable sens. Pendant longtemps, malgré que j'en soit l'auteur et la compositrice, le sens réel de la chanson m'échappait. J'étais attaché à un texte sans pouvoir l'identifier totalement d'où il parvenait. La réponse est arrivée au moment où j'ai posé le pied dans l'avion d'Air Inuit en direction de Coudjouac.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mathieu Tessier à la mise en onde. Merci à Jean-Sébastien Laliberté pour l'ensemble de son œuvre. Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous dis à la semaine prochaine en espérant qu'on sera tous en meilleure santé. Au revoir.